À Micro-Rebelle, nous avions abordé la question de l'ouverture du rail à la concurrence. Cette fois-ci, au lieu de critiquer encore, nous allons recevoir quelqu'un qui est sociétaire d'une coopérative du rail, RailCoop. Bienvenue à toi.
Bonjour. C'est une société coopérative d'intérêt commun, donc une SCIC, qui s'est lancée en 2020, qui a été portée par différentes personnes. Moi, je l'ai rejointe comme sociétaire. Et donc, du coup, ça vise pas à faire une concurrence frontale avec la SNCF, mais plutôt à proposer des itinéraires, notamment qui ne passent pas par Paris, des itinéraires plutôt transversaux en France pour des voyageurs et voyageuses, et dans une optique coopérative et en servant l'intérêt commun, et avec un esprit d'horizontalité et de participation active des sociétaires.
Et ça a démarré quand et où ?
Alors, de mémoire, ça a démarré en Occitanie, le siège de la coopérative est à Figeac. Ça a été visible dans les médias vers la fin de l'année 2020. Moi, je suis rentré dans la coopérative en 2020 ou, 2020, ou début 2021. Et du coup, il y a deux choses qui sont en train d'être mises en place concrètement en ce moment. Du coup, une ligne de fret de Figeac vers Toulouse pour transporter, je crois, de mémoire du primeur, donc des fruits et légumes, et principalement, et d'autres trucs. Et après, première ligne qui va être mise en service, mais où il y a beaucoup de rebondissements, on pourra peut-être en discuter. Du coup, c'est de faire une ligne Lyon, Bordeaux, Limoges, et peut-être qu'elle continue après l'Ouest, du coup. Voilà. Et après, il y a d'autres projets d'ouvrir d'autres lignes pour pouvoir faire des voyages plus simplement en France, sans toujours passer en correspondance par Paris. Voilà.
Alors du coup, ça répond aux deux aspects du transport ferroviaire, le fret, transport de marchandises, et proposer des trajets pour les voyageurs voyageuses. Est-ce que votre idée de départ était, de la SCIC, RailCoop, c'est de pouvoir proposer des trajets qui sont très peu desservis? Est-ce que c'était la part écologique, parce que le transport par camion est très polluant et donc proposer du fret, ça permet de réduire le coût carbone, etc., du transport des marchandises. Qu'est-ce qui est l'esprit qui a amené à faire naître cette coopérative ?
Alors, moi, j'ai rejoint en cours de route, donc j'ai pas forcément toutes les infos. Je pense que parmi les sociétaires, il y en a énormément qui prennent le train comme moyen de transport quotidien, ou au moins régulièrement. Il y a beaucoup de passionnés par le ferroviaire, c'est mon cas. Enfin, moi, je voyage beaucoup en train, et en même temps, c'est un domaine qui me passionne. Je pense que du coup, oui, par exemple, pour le primeur, enfin le train de fret qui fait Toulouse-Figeac, je pense qu'il y a un aspect écologique, enfin, de mutualisation d'un moyen, d'économie d'échelle, d'impact écologique en prenant le rail plutôt que des petits camions. Voilà.
On se souvient que le train de fret amenant les marchandises à Rungis a été fermé.
Oui.
Par exemple, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. On a entendu parler de celle-ci. Pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, on entend parler de celle-ci au niveau national parce que c'est quand même très important. Il doit y en avoir plein des lignes comme ça qui ont été fermées, où il y a une nécessité de retransporter les marchandises par le rail. Très certainement, j'imagine. Et donc, participer à la... Toi, tu disais être passionné par le rail, etc., par la technologie ferroviaire. Ça permet, en participant à cette coopérative, d'apprendre des choses. Vous vous organisez comment ?
Du coup, il y a un chat qui permet d'échanger sur différents sujets. Moi, je suis pas mal intéressé par les transports de vélo dans le train, parce que je suis cycliste, et par l'informatique autour du ferroviaire, mais tout en étant critique de certaines dérives de l'informatique autour du ferroviaire, notamment le fait de devoir passer par des codes-barres, des applis qui marchent pas. Et avec des soucis de données personnelles ou ça, Donc, et donc dans ces chats, on peut se partager des informations. Il y a des salariés aussi qui sont souvent dans chacune des discussions.
Des salariés de la SKIC ?
Oui.
Combien ça représente de personnes ?
J'en ai pas trop idée, mais je pense que vu les personnes que j'ai déjà croisées, il y a au moins, je pense, une vingtaine de salariés, je pense. Voilà, plus les personnes qui vont conduire les trains, plus probablement les personnes qui vont entretenir les trains.
Alors, du coup, vous vous êtes formé avec une commission employeuse pour faire réaliser les entretiens d'embauche,
Alors,
s'occuper des salariés.
Du coup, moi, je ne fais pas partie de ces cercles de réflexion. Ça mériterait que je creuse un peu le sujet. Voilà.
Alors, on parlait de. La SKIC a démarré vers Figeac, mais donc l'ouverture du rail à la concurrence n'est pas encore effective dans toutes les régions de France. Là-bas, c'est effectif ? Ou ça va démarrer peut-être bientôt ?
Normalement, la ligne, elle devait. Donc, la ligne Lyon-Bordeaux-Limoges. De mémoire, on devait pouvoir commencer à planifier l'ouverture à la fin de l'année dernière. Mais, donc en France, bon, c'est pas pareil dans tous les pays européens, mais en France, du coup, le ferroviaire a été découpé en deux morceaux. La gestion de l'infrastructure, qui est un monopole, qui est du coup, c'est Réseau Ferré de France, mais qui est issu de SNCF. Et après, il y a des opérateurs de trains qui peuvent faire rouler des trains sur le réseau, donc comme SNCF. Il y a Transdev, je crois. Et voilà. Et donc, du coup, on a demandé à avoir des créneaux horaires dans les gares pour pouvoir faire circuler le train sur la ligne. Et en fait, les horaires qui ont été proposés par RFF, et Réseau Ferré de France, ils n'étaient pas intéressants, il n'y allait pas avoir beaucoup de voyageurs et de voyageuses. Du coup, les créneaux qui ont été proposés ont été refusés. On est en négociation pour avoir des bons horaires. Et voilà.
D'accord. Et alors D'accord, donc c'est des négociations, j'imagine que c'est des ouvertures d'appels à candidature, etc. Ils mettent en concurrence les différentes parties à l'œuvre.
Par exemple, la ligne de train dont j'ai parlé, je pense que c'est un projet qui est porté par la coopérative, donc il y a des collectivités territoriales qui font partie de la coopérative. Je pense que c'est pas un truc, c'est pas un appel concurrentiel, c'est un projet de réutiliser des lignes qui ont été un peu abandonnées, parce qu'il y a eu beaucoup de fermetures de lignes et en fait en France on avait un réseau jusque les années 1920, donc il y a 100 ans, on avait un réseau ferroviaire qui était extrêmement dense, qui allait un peu dans toutes les directions et il y avait moyen de desservir très finement le territoire. Et à partir des années 1920, avec l'arrivée de l'automobile et la doctrine automobile aux États-Unis, puis en Europe, on a complètement délaissé le ferroviaire. Et avec ensuite la politique de François Mitterrand de pousser le TGV. Mais le TGV, c'est une technologie qui est rapide mais qui coûte cher et qui peut se faire que sur des lignes à haute vitesse, des LGV. Et du coup, il y a pas mal de lignes qui ont été délaissées, l'État s'est dégradé. Donc comme l'État s'est dégradé, on a fini par arrêter de desservir certaines lignes. Il y a les gares qui ont été progressivement fermées. Il y a plein de gares sur le territoire qui sont plus desservies. Il y en a qui ont été vendues, qui ont été retransformées dans d'autres types de...
Alors, la SKIC elle-même, donc, en tant que SKIC, est-ce que vous allez donc être dépendant de l'état de maintenance du système ferroviaire existant ?
Le réseau, il est entretenu par RFF. Donc,
qu'est-ce que vous pouvez y faire à ça si vous avez des soucis sur votre ligne?
On fera avec les collectivités territoriales, on essaiera d'obtenir la mise en conformité des rails. Et en même temps, réouvrir des lignes qui passent pas par Paris et qui utilisent des lignes qui pourraient être abandonnées ou négligées, c'est aussi les faire vivre. Et donc du coup, en les faisant vivre, après, le gestionnaire d'infrastructure, il va...
nécessiter d'opérer des maintenances. Voilà. Et qui fait partie de cette SCIC? Alors, il y a des collectivités territoriales, il y en a plusieurs, c'est sur plusieurs communes, forcément.
Je crois qu'il y a, il y a plusieurs mairies qui sont intéressées, notamment pour être desservies sur certaines lignes, mais aussi juste des collectivités qui ont juste dit « c'est cool comme projet, on va mettre un peu de sous ». Des particuliers, il y a énormément de particuliers.
Toi, tu es sociétaire en tant que particulier?
Ouais, j'adhère en tant que
des particulier. Des associations, peut-être de défense de l'environnement? Ou des associations de consommateurs?
Je pense qu'il y a des associations d'usagers, potentiellement. Des associations d'usagers qui s'étaient créées pour défendre certains tronçons de ligne un peu négligés. Mais ça nécessiterait que je creuse la question, donc je peux pas trop forcément me... Voilà, il y a des régions, il y a la région Occitanie, qui est, je crois, qui est sociétaire.
Le conseil régional, mais aussi des sous, et sociétaire aussi.
Alors, de mémoire, mais je suis pas tout à fait sûr, il y a des entreprises aussi, enfin notamment, il y a des SCIC et des coopératives qui ont mis des parts dans le, je pense, dedans. Mais, je peux me tromper, mais après, il y a quand même énormément de particuliers. Et voilà, sachant que c'est un peu découpé en collèges, puisque le fonctionnement de la plupart des SCIC fonctionne avec différents collèges qui discutent entre eux, mais en même temps, nous, on discute via les chats sur différents sujets. Et du coup, il y a le collège des porteurs-porteuses de projets, de mémoire, il y a le collège des collectivités territoriales, des futurs usagers et usagères. Voilà. Et après, il y a l'AG annuel pour le... cadrer un peu le projet et l'activité.
Et est-ce que le projet veut s'établir sur un plan national, dans d'autres, je veux dire pas national, mais dans d'autres régions?
Ah oui, RECOP est amené, je pense, à développer d'autres lignes, dans différentes régions. Après, je ne sais pas ce qui est de l'ordre du public actuellement sur les différents projets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être une concurrence frontale avec la SNCF ou d'autres opérateurs. Je pense que le projet, c'est plutôt de compléter des offres qui n'existent pas.
Sur des petites lignes. Voilà.
Mais on pourrait imaginer, par exemple, de passer de la Bretagne à Bordeaux en longeant la côte. D'aller de la Bretagne à Lille en longeant la côte aussi, aller à Strasbourg, de Lyon à Strasbourg en longeant la frontière.
Et qu'est-ce que vous répondez comme argument aux personnes qui s'opposent à l'ouverture du rail à la concurrence pour une plus grande nationalisation?
Alors, je peux pas me positionner pour la coopérative. Moi, en tant que personne, du coup, s'il y avait un bon réseau national, que toutes les gares de toutes les villes étaient desservies, comme au début du XXe siècle, que c'était facile, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu à monter la coopérative. Mais on est dans une situation, du coup, de... Je pense, on peut dire, de démantèlement des services publics sur beaucoup d'aspects et de privatisation des infrastructures. Peut-être pas pour RFF, parce que je crois que le capital, il doit être détenu uniquement par l'État voilà. Ou peut-être que c'est une filiale de SNCF, hein, du coup, qui est de facto un truc étatique. Mais du coup, comment on démantèle les services publics, plutôt que de râler, je râle aussi. Ça m'arrive de râler dans le train, mais...
Oui, c'est une sorte de réponse, enfin de solution pour... en l'état, comme le réseau n'est pas satisfaisant, qu'en plus, prenant en contexte le fait qu'il y ait une ouverture à la concurrence, vous vous saisissez de cette question pour... proposer des voyages corrects, enfin proposer une ligne de train qui... Alors par exemple, on n'a pas parlé des conditions de travail des salariés de la SCIC, donc je pense particulièrement aux personnels qui seront dans les trains, qui seront chefs de train, qui seront chefs de train et contrôleurs, contrôleuses, etc. Est-ce que vous avez des décisions particulières par rapport à ça pour que leurs conditions de travail soient bonnes, aussi bonnes que pour les personnes dans la SNCF ?
Alors, y a la gouvernance de la structure qui fait que déjà, il y a probablement plus de possibilités d'avoir voix au chapitre dans les AG de la part des salariés. Qui normalement sont, au-delà d'une certaine période d'activité salariée, sont amenés généralement, au-delà d'un an, on propose dans une coopérative, on propose aux salariés d'avoir des parts. Donc, pendant l'AG, les salariés vont pouvoir amener des points et faire valoir leurs droits. J'ai l'impression que comme du coup il y a beaucoup de choses qui peuvent être discutées mais après moi je suis pas à l'intérieur de l'entreprise tous les jours, donc du coup je sais pas comment ça se passe, mais la manière de travailler en SCIC me semble quand même plus propice à la prise en compte des droits des salariés. Voilà. Après des fois on monte des coopératives avec des très bonnes intentions et ça donne le pire des enfers salariales. Donc il faut
tomber dans les travers. Bon, ça arrive aussi avec les cigales, les groupes de cigales, c'est-à-dire les groupes de personnes qui mettent leurs économies en commun pour devenir investisseurs pour par exemple un café citoyen, un café solidaire, et puis qui se font finalement pire employeur que n'aient jamais connu ces serveurs, cette serveuse dans le café solidaire. Ça arrive, effectivement, et ça arrive aussi dans le milieu associatif, hein, parfois, que les pires travers du monde capitaliste reviennent au galop. Il faut y être attentif, et j'ai l'impression que vous y êtes attentif et attentive dans la SCIC.
Bah, elle est quand même assez énorme au niveau de sa composition. Enfin, je crois qu'il y a je pense qu'il y a facilement un millier de particuliers qui en font partie, mais je tablerais plus sur une dizaine de milliers ou plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Et là, c'est encore ouvert à toutes et tous ?
Oui, on peut du coup encore. Du coup, cet aria, je pense, est ouvert en permanence. Et après, comme il y a de l'investissement dans du matériel. Notamment des locaux, du matériel d'entretien. Et aussi, la licence ferroviaire, ça coûte assez cher. Je crois que c'est 50 millions d'euros quand même, hein, l'autorisation pour faire circuler des trains. Et puis les assurances, en cas d'un accident de train, c'est quand même...
C'est un sacré projet.
Hein. Ouais. Et donc du coup, il y a la coopérative aussi qui fait des emprunts sous forme de titres participatifs.
D'accord.
Mais c'est pas ouvert à toutes les classes sociales, parce que je crois que Les titres participatifs sont ces 3000 euros, du coup, de mémoire.
Et alors, j'ai une question me taraude. Oui, pardon,
la
vas-y.
La part, je crois qu'elle doit être autour de la centaine d'euros, de la trentaine d'euros, je ne sais plus. Enfin, ça ne m'a pas semblé excessif. Et je me suis dit, je vais mettre une part et voir ce que ça donne. Et en tout cas, ça me fait plaisir de participer à une organisation un peu plus démocratique et horizontale du ferroviaire.
Et une question qui me taraude, tu n'auras peut-être pas la réponse pour moi, mais avec cette ouverture du rail à la concurrence, c'est la question de la communication. Je n'y connais pas grand-chose, moi, dans ces systèmes-là. Et donc, je me demande comment les différentes entreprises, SKIC, qui possèdent des horaires sur les lignes de train, vont pouvoir bien communiquer pour éviter les accidents.
Alors, ça, c'est au niveau européen, mais aussi chinois. Je crois que les Chinois ont le même système. Alors, il y a un peu comme tous les avions et tous les bateaux au-delà d'une certaine taille. Chaque train, maintenant, en Europe, est balisé avec une balise radio qui s'inspire du système GSM, enfin du système de téléphonie mobile, sauf que c'est un réseau à part, dédié au rail. Donc c'est le système GSMR. Et du coup, les trains se signalent par radio. Il y a aussi, si vous regardez bien les rails quand vous voyagez en train, vous avez des boîtiers sur le blanc, sur le bord des voies. Vous avez des espèces de serpentins au milieu des rails. Vous avez des boîtiers entre les rails. Et vous avez des antennes, des mâts qui font peut-être 5 mètres ou 10 mètres, avec des antennes râteau comme pour la télé. Et du coup, il y a tout un système de transmission. Et qui remonte à un régulateur européen du rail, du coup. Et quand il y a un incident, c'est signalé sur le réseau européen. Et, si par exemple il y a un freinage d'urgence pour un train, ça va remonter, je ne sais plus si c'est régional ou national, mais il y a des agences qui suivent en permanence l'état du réseau. Et dès qu'il y a un incident, du coup, ça remonte, ça déclenche des procédures et voilà.
De là parfois les moments où le train s'arrête en pleine voie et
oui, attend. Ça c'est probablement du coup il y a comme pour les voitures il y a des feux rouges, enfin sauf que là c'est des feux magenta et des feux verts. Enfin, du coup la couleur est pas comme les feux rouges parce que un feu rouge en train c'est un arrêt immédiat du train, c'est il y a un problème. Mais du coup, il y a des feux magenta tirant un peu vers le violet, du coup. Probablement que si un train s'arrête en pleine voie, c'est qu'il y a eu un retard ou un truc, et que du coup, il y a un peu comme des bouchons sur l'autoroute, mais sur le train. Et donc, en gros, il y a des segments dans le ferroviaire, et un train ne peut pas rentrer dans un segment si, par exemple, le segment d'avant ou les deux segments d'avant ou les trois segments d'avant en ligne à grande vitesse sont libérés pour éviter les collisions. Et après, au niveau des aiguillages, il y a il y a un sacré timing pour que les aiguillages se déclenchent, que le bon train arrive au bon endroit. Mais des fois, quand il y a un train qui est en retard, du coup, il doit attendre avant de passer l'aiguillage parce que du coup on va pas retarder tous les trains juste pour ce train là et donc il faut qu'il ait à nouveau un bon créneau pour passer. Et c'est aussi pour ça qu'on galère pour avoir ce qu'on appelle un sillon pour Railcoop, pour Lyon, Bordeaux, Limoges. C'est que y a quand même il y a des trains de voyageurs qui circulent, il y a des trains de fret, mais il y a aussi les trains un peu bizarres qui permettent de déposer les rails, de les enlever, de les changer. Enfin, il y a l'entretien du réseau. Et donc du coup, c'est une logistique extrêmement complexe de gérer les horaires. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a des difficultés côté RFF pour nous fournir des bons horaires. C'est que voilà, faut arriver à bien gérer les horaires de chaque train.
Et alors, une dernière chose que j'aimerais comprendre, c'est les différents acteurs de la SCIC, sont-ils opérateurs dans l'organisation, la gestion? Est-ce qu'il y a des groupes de travail qui s'occupent de ça, par exemple? Ou bien, pour tout ça, il y a des salariés qui sont des personnes qui travaillent dans le rail, qui savent être, je ne sais pas, aux aiguillages, s'occuper de ce timing et de la communication? Est-ce que c'est tous des postes salariés, tout ça? Ou est-ce que dans la SCIC, il y a des groupes de travail qui vont s'occuper de parts de travail?
Alors, il y a des groupes de travail, mais pour le fonctionnement quotidien de la SCIC, c'est les salariés qui vont faire la plupart des choses. Après, la gestion des aiguillages et des sillons et des horaires, c'est une compétence qui est de... C'est l'opérateur d'infrastructure, donc c'est Réseau Ferré de France qui gère cette partie-là. Et après, c'est la coopérative qui s'adapte à ce qui est proposé, qui peut refuser ou accepter ce qui est proposé.
Au niveau du train lui-même, des wagons et tout ça, vous avez racheté un ancien wagon?
Oui. Alors du coup, c'est une automotrice de... je me demande si pas la région... Du coup, je crois que ça vient de Gironde. C'est des locomotives, c'est des automotrices diesel. Donc c'est deux voitures, je crois deux voitures ou une. Donc il y a deux motrices de chaque côté et une voiture au milieu peut-être. Et probablement que le choix du diesel a été fait parce que notamment dans le sud-ouest, il n'y a pas toutes les lignes qui ont des caténaires. Donc on peut pas. Il y a des trains sur batterie, mais la technologie n'est pas encore mûre. Et en plus, il y a les composants des batteries qui commencent à. On consomme tellement de batteries actuellement que c'est compliqué de fabriquer des batteries, surtout pour faire rouler un train qui pèse, à mon avis, une voiture, ça doit faire de l'ordre de quelques tonnes ou peut-être une dizaine de tonnes. Donc ça fait peut-être c'est peut-être 30 tonnes pour un train de 3 voitures. Et plus on rallonge le train, plus il est lourd. Donc.
Et plus il est utilisé, plus il sera lourd.
Oui. Et dans l'utilisation du train, par exemple pour les vélos, c'est une question assez complexe parce que, par exemple, le transport des vélos dans un train, de mémoire, il n'est pas rentable. Donc du coup, il y a des questions à RECOP, notamment sur comment mettre les vélos. Les suspendre avec une roue au plafond, c'est bien, mais pour les vélos électriques ou les vélos cargo pour aller emmener ses enfants, c'est tellement lourd que c'est pas possible de les accrocher. Si on les met les uns à côté des autres, des fois on peut plus passer. On peut les mettre en biais, comme pour les stationnements sur le bord de la route des fois, un peu en épi. Probablement que peut-être un mélange des différentes façons de les stocker, ça peut être pas mal. Voilà. Et oui, après, pour la communication de RailCoop, elle va se faire en partie dans les gares, parce qu'il y a des espaces, dans les gares desservies, il y aura des espaces aménagés pour RailCoop, pouvoir prendre ses billets ou pour pouvoir échanger, faire du SAV.
Donc vous aurez des salariés au guichet aussi, dans certains endroits.
Probablement. Après, normalement toutes les. Que ce soit Oui SNCF, Trainline ou d'autres opérateurs de vente de billets, ils vont probablement avoir accès à la base de données des billets et pouvoir les référencer dans leur offre en cherchant un train. Il y aura peut-être des campagnes de publicité. Moi personnellement je suis pas trop favorable parce que du coup la publicité pour moi ça vient consommer un budget qui ensuite on le répercute sur les billets.
Et puis peut-être que là c'est une supposition de ma part, mais Peut-être que tu t'opposes également à l'aspect communication par appli pour la question des données, de la protection des données. Tu disais que c'est quelque chose qui t'intéressait. Si les autres opérateurs prennent vos, acceptent de prendre vos lignes, les mettre sur, en offre sur leur site, après les gens, ils vont leur donner leur, les données personnelles dans leur application à eux.
Alors du coup, moi là où ça me pose question, c'est plus sur les billets de TGV, c'est quand on scanne le billet avec un lecteur de code barre 2D, en fait on voit qu'il y a nom, prénom, date de naissance. Bon, après je pense que c'est un truc réglementaire, je pense que les voyageurs en Europe quand ils se déplacent sur des lignes hors département et région, ils sont... pour des raisons antiterroristes et tout ça, je pense que ça doit être nominatif pour pouvoir savoir qui était où dans quel train. Mais ça pose question de pouvoir scanner un billet d'une personne ou même que ça soit noté dessus. Y a beaucoup d'applis sur Android ou sur iPhone actuellement qui aspirent juste les données personnelles et... pour des motifs louables à l'origine, mais bon, bref.
Donc, par exemple, toi, tu ferais partie des personnes dans cette SCI qui, quand il faudra voter, enfin, quand il faudra s'y intéresser, s'opposerait au fait de mettre vos billets sur l'appli de tel concurrent.
Bah,
par exemple, vous aurez votre propre appli cryptée.
Du coup, je sais pas encore trop parce que du coup, je m'étais mise dans la commission autour de l'informatique et j'ai commencé un boulot en janvier et j'ai pas trop le temps je suis jamais allé aux réunions en ligne. Du coup, voilà. Mais
est-ce que ça fait partie des problématiques des questions qui se posent dans cette commission? Est-ce que tu as des retours sur ça? Est-ce que tu sais?
Bah, du coup, il y a la volonté de mettre des outils à disposition pour les voyageurs et pour les réservations, je pense. Il y a des questionnements, peut-être j'en ai discuté avec une ou deux personnes, peut-être de mutualiser, s'il y a d'autres sociétés européennes, de mutualiser peut-être des outils, de rendre accessibles, par exemple, les horaires aux sites qui font des calculs d'itinéraires dans un format qui est ouvert et documenté. Après, la question des données personnelles, ça sort un peu du cadre de la coopérative. C'est un truc...
Un petit plus, c'est voilà. Quelque chose porté par des personnes à l'intérieur, mais c'est pas le cœur du projet.
En tout cas, moi je suis très favorable à déjà ce que les outils qui soient mis en place, ce soient des outils en logiciel libre, avec des sources auditables, qu'on puisse regarder comment ça fonctionne, et qu'on fasse attention à respecter le mieux qu'on peut la vie privée des gens, et à ne pas faire des traitements abusifs des données. Voilà.
Et ben, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, une question que je n'aurais pas posée que... quelque chose que tu aurais envie d'aborder?
Non, pas forcément. Juste, venez adhérer à la coopérative.